La présence de Dieu est tellement forte ce matin que je ne sais pas comment commencer. Seigneur Jésus, merci. Merci parce que ce matin, tu nous as manifesté ta fidélité. Tu nous as rappelé qui tu es. Tu nous as rappelé qui tu es pour notre propre vie. Tu nous as rappelé ta grâce. Tu nous as rappelé ton sacrifice à la croix. Tu nous as rappelé combien tu es vivant, combien tu es puissant et combien tu veux nous relever, nous restaurer, nous équiper, nous faire avancer, nous faire marcher dans tes voies. Tu nous as dit combien tu nous aimes, que rien ne peut nous séparer de ton amour. Merci Jésus. Seigneur, merci pour la parole que tu nous as laissée. Je te demande ce matin qu'elle fasse son œuvre dans les cœurs de chacun d'entre nous. Je te demande de venir déposer le bon dépôt de ta parole dans nos cœurs. Donne-nous un esprit de révélation, de sagesse qui te fasse connaître, qui nous éclaire, qui nous fasse aller de l'avant. Je bénis ta parole, Jésus. Amen. Nous venons de traverser la période de Pâques et nous allons encore une fois parler du sang de Jésus. Alors c'est vrai que j'ai parlé plusieurs fois de la Sainte Cène, je vais encore parler du sang de Jésus qui est un des éléments de la Sainte Cène, mais je ne vais pas parler directement de ce repas. Ça en fait aussi partie bien sûr, c'est indissociable, mais là je vais partir, vous verrez, un peu ailleurs. J'aimerais parler d'une des caractéristiques du sang de Jésus, une façon dont il agit. On sait comment est-ce qu'il agit, on sait que le sang il guérit, on sait qu'il lave, qu'il purifie. Mais il y a une façon dont il agit et c'est une façon sonore. C'est une façon qui fait du bruit, c'est une façon audible. Le sang de Jésus est sonore et c'est une des manières dont il agit et c'est de ça que j'aimerais parler ce matin. D'autre part, Dieu nous appelle à faire la différence sur la terre. C'est vrai qu'une fois qu'on est sauvé, une fois qu'on a reçu Jésus dans notre cœur, il y a tout un travail de restauration, de guérison qui se fait. On peut bénéficier de guérison physique, mais on bénéficie aussi de guérison de notre âme, de nos émotions, de notre passé, de souvenirs, de blessures, de toutes sortes. Et plus on est restauré, plus on devient utilisable pour le Seigneur. Plus on porte du fruit, plus on peut participer à son œuvre. Ça, c'est quelque chose que le Seigneur nous a donné. C'est quelque chose d'individuel, de personnel. Mais on a aussi une responsabilité. On a une responsabilité les uns envers les autres. Tout ce qu'on a reçu du Seigneur, on a la responsabilité d'en faire bénéficier les uns les autres. Par exemple, quand on s'encourage, quand on s'exhorte, quand on prie les uns pour les autres, quand on se soutient. Quand on s'enseigne, quand on se témoigne. Et on a aussi une responsabilité pour ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. On a la responsabilité de faire la différence dans notre sphère d'activité. Alors autant connaître un moyen efficace que le Seigneur nous a donné pour pouvoir agir dans tous ces domaines. Donc je vais essayer de m'expliquer. Déjà pour commencer, un texte dans Luc 10, de 1 à 23, je ne vais pas tout lire parce que ce serait un peu long. Je vous lis juste déjà le premier verset, premier 1 et 2, donc Luc 10. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. En fait, dans tout ce passage, Jésus, il prend des disciples, deux par deux, 70 personnes, deux par deux, et il les envoie dans tous les endroits où Jésus voulait aller. Et le mandat qu'il leur donne un petit peu plus loin, c'est qu'il leur dit, guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Donc en fait, le mandat que ces 70 disciples ont reçu, c'est de guérir les malades et d'annoncer le royaume de Dieu. ce que je trouve assez fou, c'est que Jésus, il était là physiquement, donc il n'avait encore pas passé par la croix. Et il leur dit, allez annoncer le royaume de Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils pouvaient dire, ses disciples? Qu'est-ce qu'ils connaissaient du royaume de Dieu? Là, moi, il y a un truc qui m'échappe. Mais n'empêche qu'à la fin du passage, depuis le verset 17, on peut lire les 70, les 70. Les 70 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. » Jésus, il a envoyé les disciples pour guérir et prêcher et eux, en plus de ça, ils se sont rendus compte que même les démons leur étaient soumis. Les 70 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Ce n'était pas n'importe comment, c'était par le nom de Jésus. Jésus, en fait, il les a revêtus de sa puissance. S'il ne l'avait pas fait, ils n'auraient pas pu. Ils n'auraient pas pu agir. Ce qui se passe, c'est qu'avant, avant que Jésus vienne sur terre, Satan était tranquille, entre guillemets. Satan, il avait l'autorité légale sur la terre. Il l'a acheté à Adam et il avait l'autorité légale de faire ce qu'il voulait. Donc les gens avaient des démons, des maladies, et puis en fait, ils étaient complètement démunis avec ça. Ils savaient reconnaître qu'ils avaient des démons, mais ils n'avaient pas les moyens de les faire sortir. Et voilà, tada, Jésus arrive. Jésus arrive. Et Satan commence à tomber de son piédestal. Il était déjà tombé, il a déjà été éjecté des lieux célestes, de la présence de Dieu. Mais là, il commence à tomber, à perdre de son autorité. Son règne commence à décliner, à déchoir, à s'effriter. Juste parce que Jésus a mis les pieds sur terre et qu'il a commencé à donner sa puissance à ses disciples et à les envoyer en son nom. C'est révolutionnaire. Les disciples, ils n'en reviennent pas, mais même les démons nous ont soumis, mais on n'a jamais vu ça. C'est révolutionnaire. Donc, non seulement Jésus nous a donné son nom, mais il nous a donné son sang. Là, à l'époque, les gens n'avaient que le nom de Jésus. Mais pour nous aujourd'hui, vu que la croix a eu lieu, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi cette différence? En fait, moi je dirais que le nom de Jésus, ça englobe toute sa personne. Ça englobe son identité. Qu'est-ce que Jésus était dans le ciel avant de venir sur la terre? C'était quoi son identité de fils de Dieu? C'était quoi son identité de fils de Dieu et d'homme quand il était sur terre? Et c'est quoi son identité maintenant qu'il est de nouveau auprès du Père, avec un corps glorifié qui porte encore les marques des clous et avec l'œuvre qu'il a fait. Tout ça, c'est dans son nom. Et son nom, c'est aussi toute son œuvre. Ça englobe toute son œuvre. Tout ce qu'il faisait, pas seulement ce qu'il était dans les cieux, mais tout ce qu'il faisait. Sûrement qu'il n'était pas juste assis à attendre à rien faire quand il était dans le ciel vers son Père. Certainement qu'il faisait des choses, peut-être qu'il intercédait déjà, peut-être qu'il était dans la louange, dans la joie. Il faisait des choses et il est venu sur la terre pour faire des choses, pour nous enseigner, nous guérir, nous délivrer et passer à la croix pour vaincre la puissance des ténèbres. Et il est retourné au ciel et il continue à faire des choses. Il continue son œuvre, il intercède pour nous auprès du Père. Il continue son œuvre. Donc le nom de Jésus, ça englobe toutes ces choses-là. Ça englobe son identité, ça englobe son œuvre, ce qu'il est, ce qu'il fait. Le sang de Jésus, c'est plus précis. C'est plus précis parce qu'il touche à la croix, il touche à une œuvre particulière. Ça touche à la victoire. À la victoire sur le monde des ténèbres. Par son sang, on a l'autorité légale. Lui, déjà, a l'autorité légale d'avoir la victoire, de briser les jougs, de guérir les malades, et il nous a donné cette autorité légale. Quand il dit « je vous donne le pouvoir de chasser les démons », ça veut dire « je vous donne l'autorité légale ». parce que c'est lui qui a payé le prix. Et sans le sang de Jésus, le monde des ténèbres ne serait pas en train de déchoir chaque fois qu'un chrétien se positionne dans la foi et prend autorité. Et ça, je ne sais pas si vous arrivez à vous rendre compte. Chaque fois que vous êtes dans une position de foi et que par la foi vous appliquez la parole de Dieu, le règne de Satan perd du terrain. Il déchoit, il chute, il tombe. Il tombe comme un éclair. Quand vous priez pour quelqu'un qui guérit, Satan, il chute comme un éclair. Et ça, c'est tellement important de le comprendre. Chaque fois que vous agissez dans la prière avec foi et que vous portez du fruit, c'est le royaume, le règne de Jésus qui s'étend et c'est celui des ténèbres qui doit se retirer. Il n'a pas le choix. C'est des lois spirituelles. Ok, je vous ai dit que le sang de Jésus, il est sonore. Alors, je ne me perds pas, on y vient. Mais qu'on se souvienne tous, on a vu que la vie est dans le sang. Vous vous souvenez? La vie, dans le sens, tout ce qui fait qu'on peut vivre, tout ce qui est souffle de vie, c'est dans le sang. Tout ce qui fait qu'un être est en vie, ça se trouve dans le sang. Et on va lire un passage qui nous explique un peu mieux ces choses-là. On va remonter très en arrière, au début de l'humanité, dans la Genèse, au chapitre 4, versets 1 à 15. Adam connut Ève, sa femme. Vous vous souvenez connaître entre un homme et une femme mariés? Ok. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn et elle dit « J'ai acquis un homme de par l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité, et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. » Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. » Je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé cette fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tue point. Caïn est complètement dominé par son péché. Il est incapable de repentance. Il est même arrogant. Jusqu'à mentir à Dieu. Je ne sais pas. Est-ce que je suis le gardien de mon frère? Non, mais vous vous rendez compte comment est-ce qu'il s'adresse à Dieu? Mais rien n'est caché aux yeux de Dieu. D'une part, il voit tout. Il sait tout. Mais regardez ce verset magnifique de puissance. Verset 10. Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait ?» La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Oui, Dieu voit tout, Dieu sait tout, mais il entend aussi. Dieu entend. Le sang d'Abel crie tellement fort, son sang, il est parti de la terre et il a traversé le ciel qu'on voit, le ciel des nuages, le ciel des étoiles. Il a traversé l'atmosphère, la troposphère, la stratosphère, la mésosphère, la thermosphère, l'exosphère, jusqu'à arriver devant le trône de Dieu. Le sang d'Abel, Abel était mort, son sang a coulé, je ne sais pas s'il s'est pris un coup de bêche, comme ils disent dans Adonia, s'il s'est pris un coup de poignard, un coup d'épée, je ne sais pas, mais son sang s'est répandu. Abel était mort, mais ce sang, il a traversé les kilomètres, il a traversé tout l'univers pour se retrouver au pied du trône de Dieu. Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » Si une fois mort, le sang d'Abel crie encore, c'est que véritablement nous sommes des êtres spirituels. La vie est dans le sang, pas la mort. Donc, quand le sang s'écoule de notre corps, la vie, elle continue. Autrement, mais elle continue. Nous sommes éternels. Le sang d'Abel crie. Il y a plusieurs mots pour crier dans l'Ancien Testament. Il y a le fait de pousser un cri de joie, un cri de triomphe, un cri de guerre, un cri de louange. Celui qui est utilisé dans ce texte ici, il comprend la notion d'appeler, de crier pour une aide, d'implorer dans la détresse, de crier dans le besoin. Le sang d'Abel crie à Dieu dans le besoin, dans la détresse. Il implore. Je ne sais pas moi ce qu'il a crié, mais je peux imaginer. Seigneur, mais fais-moi justice, regarde, regarde, j'étais innocent, j'étais en train de t'offrir un sacrifice. J'ai rien fait de mal, j'ai pas fait de mal à mon frère, j'ai juste élevé mon cœur vers toi et voilà qu'est-ce qu'il fait, il me tue. Mais tu as vu cette injustice, fais quelque chose, fais-moi justice. Mais peut-être qu'il a crié autre chose. Je ne sais pas, mais peut-être. Peut-être qu'il a dit, Père, tu as vu mon frère, tu as vu ce qu'il a fait, prends pitié de lui. Il est dans de sales draps là, il s'est éloigné de toi. Il faut que tu le sauves, il faut que tu ailles le repêcher, fais quelque chose parce qu'il est loin de ta face. Et c'est quoi son avenir? Prends pitié de lui, fais quelque chose qui se repente, touche son cœur. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que le cri du sang d'Abel a déposé devant le trône de Dieu. Mais ce que je sais, c'est que Dieu a entendu. Le cri est monté jusqu'à Dieu. Dieu a entendu et s'est redescendu. Il est allé voir Caïn pour recevoir des explications et pire, pour le sanctionner. Qu'as-tu fait ? Donc si le sang d'Abel, une fois échappé de son corps, a crié jusqu'à Dieu, à combien plus forte raison le sang de Jésus ? Et c'est que le sang de Jésus n'avait pas la même qualité que celui d'Abel. Il n'a pas la même qualité parce qu'il est toujours vivant, c'est toujours actuel. Bien qu'innocent et mourant victime, Abel avait un sang qui était déjà contaminé par le péché. Il l'a hérité de ses parents. Pourtant, Dieu a entendu son cri et il a répondu. Jésus aussi est mort innocent et en victime, entre guillemets, mais de sa propre volonté. On ne lui a pas ôté la vie. Jésus l'a donné. Il s'est offert en sacrifice parfait, en adéquation totale avec sa volonté et celle du Père. Et le sang de Jésus, il était pur, il était sans péché, ce qui lui donne l'autorité légale et la puissance de faire justice, de vaincre l'injustice et de vaincre le mal dans toute son essence. Il y a un verset dans Jean 14, 30, c'est quand Jésus était au dernier repas avec ses disciples, peu de temps avant de se faire arrêter et donc peu de temps avant de mourir, avant la prière sacerdotale. Il explique encore beaucoup de choses à ses disciples. Et quand il parle de Satan, du prince de ce monde, il dit, dans Jean 14, 30, « Il n'a rien en moi. » Satan n'a aucun accès à Jésus. Il n'y a rien de Satan en Jésus. Ce n'est pas notre cas. En tout cas, ce n'est pas mon cas. Le sang de Jésus est pur, celui d'Abel ne l'était pas. Abel était la postérité d'un homme et d'une femme qui avaient péché. Mais Jésus n'était pas la postérité d'un homme et d'une femme. Il était la postérité de la femme, mais surtout, il était la postérité de Dieu. Et en génétique, on sait que le patrimoine génétique est principalement transmis à l'enfant par le père. Par exemple, c'est le père qui décide du sexe de son enfant. Petite parenthèse. La postérité de Jésus, elle n'est pas humaine, elle est divine. Et ça aussi, ça fait une différence dans son sang. Et je suis allée un peu plus loin dans ma réflexion parce que je pensais à un verset qui explique que Jésus n'a pas non plus connu le péché. Ça se trouve dans 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Jésus n'a pas connu le péché. Ça veut dire que, essayez d'imaginer, il ne savait pas quel sentiment, quelle émotion ça faisait de se sentir sale, de se sentir souillé. Jésus, il ne savait pas ce que c'était d'avoir blessé quelqu'un sans faire exprès. Il ne savait pas ce que c'était que d'avoir blessé quelqu'un intentionnellement. Il ne savait pas ce que c'était de s'être trompé. Il ne savait pas ce que c'était de vivre l'échec. Dans sa personne, il le voyait autour de lui, mais dans sa personne, se dire « Waouh, je me suis planté !» Ça, il ne le connaissait pas. D'avoir des mauvaises pensées envers quelqu'un, il ne savait pas ce que c'était. D'avoir un mauvais jugement, une critique, il ne savait pas ce que c'était. De ne pas dire tout à fait la vérité, enfin, ne pas mentir, mais juste dire un peu les choses juste comme ça. Il ne savait pas ce que c'était. Jésus n'a pas connu le péché. Il n'a pas pu être atteint par le péché. Oui, à la croix, il est devenu péché. Ça, c'est encore autre chose. C'est grâce à ça qu'on est sauvé. Mais dans sa personne, dans la qualité de son sang, il était tellement pur. Il est tellement pur qu'il n'y a pas de mots pour exprimer cette pureté. Et c'est pour ça que dans Hébreux 12, 24, il nous est dit que le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Moi, j'ai envie de dire, mais là, c'est moi, c'est pas ce qui est écrit dans le texte. Le sang de Jésus crie mieux, plus fort, plus efficacement que le sang d'Abel. Dans Hébreux 12, 22, 24, je vous lis le passage. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus, vous vous êtes donc approchés de Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Abel est mort et encore maintenant il attend sa résurrection. Jésus, lui, il est déjà ressuscité, il est déjà glorifié, il est vivant et son sang parle encore. Son sang crie, implore, plaide en continu pour nous. Et pas seulement pour nous, mais pour tous ceux qui ne le connaissent pas encore. Jésus, par son sang, nous fait justice devant le Père. Alors la question c'est, Ok, j'ai compris, mais comment bénéficier? Comment bénéficier de ce cri? Alors, je reviens en arrière de nouveau. Je reviens à Exode 12. Vous vous souvenez ce que c'est, Exode 12? Exode 12, c'est l'histoire de la première Pâque. C'est lorsque le peuple hébreu était encore captif en Égypte. C'était juste avant sa délivrance. Les 9 premières plaies, elles avaient déjà eu lieu, et la dernière, celle qui allait faire flancher le cœur de Pharaon pour qu'il laisse partir son peuple, ce dernier jugement, cette dernière plaie était sur le point d'arriver. Et en fait, le peuple devait sacrifier un agneau sans défaut, préfigurant Jésus, appliquer son sang sur le linteau, les poteaux des portes de leurs habitations. Je vous lis juste dans Exode 12, les versets 12 et 13. Cette nuit-là, c'est Dieu qui parle à Moïse, qui lui explique. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Le sang vous servira de signe dans les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous connaissez cette histoire. Les Hébreux ont dû mettre du sang de l'agneau pascal sur les poteaux, le linteau des portes de leur maison, afin qu'en voyant le sang, le signe, le jugement passe son chemin et épargne leurs habitants. Donc ce sang de l'agneau sur le pourtour des portes servait de protection. Bien sûr, protection contre la mort des premiers-nés, mais en fait, c'est la protection contre le jugement. La mort des premiers-nés, c'était ce qui était décidé dans ce jugement. Dieu aurait pu mettre n'importe quoi d'autre comme manifestation du jugement. Mais voilà, ça servait à ce que tous les premiers-nés ne meurent pas. Entre parenthèses, il n'y a pas marqué, si j'ai bien compris le texte, il n'y a pas marqué si c'était des premiers-nés hommes, mâles ou mâles et femelles. Ce n'est pas précisé. Donc pour moi, c'était tous les premiers-nés, hommes, femmes. Et il n'y a pas précisé quel âge. Donc ce n'était pas forcément des premiers-nés, des bébés ou des enfants de 1 à 5 ans ou à 10 ans. On ne sait pas. Et là, moi, j'aimerais juste faire une petite expérience. Alors, on ne va pas chipoter. Avec les familles recomposées et tout ça, on peut être le premier-né de son père, mais pas de sa mère, et vice-versa. Donc, moi, ce que je vous propose maintenant, juste pour que ce soit visuel, tous les premiers-nés, hommes ou femmes, de père ou de mère ou des deux, levez-vous. Alors, moi, je me mets sur la pointe des pieds. J'en fais partie aussi. OK, alors... Ça fait quand même pas mal de monde, hein, si vous aviez... Attendez. Imaginez si vous avez été égyptien. Ça fait quand même pas mal de monde qui n'aurait pas été là aujourd'hui. Si vous aviez été égyptien. Et pour ne pas mourir, il y aurait eu deux conditions. Pour être protégé, il y avait deux conditions. Vous auriez dû avoir le sang sur les poteaux et le linteau de vos habitations, mais encore fallait-il être dans la maison. Logique, non? Mieux vaut être au bon endroit au bon moment. Exode 12, 13, dans les maisons où vous serez. Exode 12, 22, nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Vous me suivez? Le sang sur le poteau et le linteau servait de signe pour détourner le jugement. Sans le signe sur eux, je pense que vous avez compris. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Tu peux savoir tout ce que Jésus a fait. Tu peux savoir que le sang de Jésus y crie. Tu peux savoir que ce qui s'est passé à la croix, c'est vrai. Tu peux savoir toutes ces choses-là, mais si tu ne les mets pas en pratique, tu ne vas pas en bénéficier, en tout cas pas à sa pleine mesure. Est-ce que tu appliques le sang de Jésus sur ta porte? Moi, mon corps, c'est ma maison. Alors, c'est important que j'applique le sang sur moi-même, mais aussi sur mon âme, sur mon esprit, sur toute ma personne. C'est important que j'applique ce sang et que je sois toujours... dans ma maison, que je sois toujours sous la protection de ce sang. Je ne dois pas m'en éloigner, sinon je ne peux pas en bénéficier. Aujourd'hui, il n'y a plus de médiateur. Avant, il fallait aller vers les sacrificateurs pour tuer l'agneau. aujourd'hui, c'est à nous, à chacun personnellement, de prendre le sang de Jésus et de l'appliquer sur notre propre vie. Alors vous allez encore me dire, oui, mais on l'applique comment ? À l'époque, il y avait une branche d'hysope, on trempait dans le bassin et puis hop. On fait comment maintenant ? On proclame. La façon d'appliquer le sang de Jésus, c'est de le confesser avec la bouche. Dieu a créé toute chose par quoi ? Par sa parole. Et on est fait à l'image de Dieu. Donc notre parole aussi, elle crée. Dieu nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Notre langue, elle est importante. Ça dépend ce qu'on en fait, bien sûr. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Mais la vie est au pouvoir de la langue. C'est important de confesser les choses, de les dire, de dire des mots. Et ce que vous pouvez faire avec le sang de Jésus, c'est invoquer. Invoquer le sang. Invoquer, d'après le Larousse, ça veut dire appeler une puissance surnaturelle à son aide par des prières. Solliciter l'aide de quelqu'un de plus puissant par des prières. Invoquer le sang de Jésus. Ou alors plaider. Plaider par le sang de Jésus. Ça veut dire défendre oralement une cause, une partie devant une juridiction. Soutenir un procès. Présenter des arguments pour appuyer ou attaquer quelqu'un, quelque chose. Être favorable à quelqu'un, plaider en ma faveur. C'est ce que vous pouvez faire avec le sang de Jésus. Alors comment ? Allez chercher dans la parole tout ce qui vous parle du sang de Jésus. Ce n'est pas compliqué. Maintenant, ceux qui ont Internet, vous pouvez aller sur des sites, vous mettez le mot, vous allez sur le site où il y a une Bible, vous mettez le mot « sang » et puis vous aurez tous les versets qui vont apparaître. Et pour ceux qui n'ont pas Internet, la plupart d'entre vous, vous avez certainement des concordances. Vous cherchez le mot « sang » et vous avez tous les versets où il y a ce mot. Et vous regardez, qu'est-ce qu'il y a écrit sur le mot « sang » dans le Nouveau Testament, le sang de Jésus. Le sang, il lave, il purifie, il guérit, etc. Vous commencez à lire ces versets, à les proclamer, à en faire des prières. Et vous invoquez le sang. Et là, aujourd'hui, si vous avez compris que le sang crie, eh bien, vous invoquez le sang qui crie. Vous comprenez qu'il est devant le trône de Dieu. Seigneur, j'invoque ton sang sur moi. J'invoque ton sang sur mes pensées. J'invoque ton sang sur mon corps. J'invoque ton sang sur telle partie de ma vie. Je le soumets à l'autorité de ton sang. J'en appelle à la justice de ton sang qui réclame pour moi devant le Père. Ce n'est pas compliqué. Mais faites-le dans la foi. Si vous le faites juste parce que je vous ai dit qu'il faut le parler, ça ne va pas être très efficace. Mais si vous vous mettez dans une position de foi, à force de vous nourrir de ces paroles, vous les croyez au plus profond de vous-même, vous allez voir la différence. Placez-vous sous l'autorité du sang de Jésus. Quand vous allez entrer dans la mêlée, que ce soit à votre travail ou dans tous les défis que vous avez, placez-vous sous l'autorité du sang de Jésus. Invoquez le sang. Plaidez le sang en votre faveur. Mais il y a les autres aussi. Il y a votre famille, il y a votre entourage. Appliquez le sang de Jésus sur votre entourage. Appliquez le sang de Jésus sur vos enfants. Ils n'ont pas besoin d'être là physiquement. Vous pouvez le faire quand vous imposez les mains, mais vous pouvez le faire à distance. Dans les lieux spirituels, il n'y a pas de distance. Invoquez le sang de Jésus sur votre enfant. Plaidez, faites une plaidoirie. Par le sang de Jésus, faites une plaidoirie pour vos enfants qui se sont éloignés du Seigneur. Faites une plaidoirie et rappelez au Seigneur que ton sang crie. Et c'est au nom de ce sang qui crie et qui plaide devant le Père que je fais appel pour que mon enfant revienne à toi. Lorsque les 70 disciples sont revenus, ils ont dit à Jésus, mais même les démons nous sont soumis. Nous avons le sang, les disciples, ils ne l'avaient pas. On doit être beaucoup plus puissant que les disciples. Quand vous êtes revêtus du sang de Jésus, vous êtes dans cette position de foi, les démons tremblent parce qu'eux aussi, ils ont des oreilles. Et le sang qui crie, eux aussi, ils l'entendent. Ils ont la trouille. Mais ça, vous devez le savoir, vous devez le comprendre. Sinon, vous n'allez pas l'utiliser. Tout à l'heure, on va partager le repas du Seigneur. Quand vous allez prendre ce jus de raisin, par la foi, vous le sanctifiez, vous le mettez à part comme étant spirituellement le sang de Jésus. Quand vous allez l'avoir dans votre bouche, vous allez sentir le goût,
Vous allez le sentir descendre dans votre gorge. Rappelez-vous, ce sang que je sens, il crie. Il est devant le trône de mon Père. Il crie en ma faveur. Rappelez-vous ces choses-là et appliquez-les là où vous en avez besoin dans votre vie. Le sang de Jésus, il est puissant, il est vivant, il agit en continu. Il bouillonne de victoire, de puissance, d'autorité légale. C'est à nous de nous en emparer, c'est à nous de comprendre, de mettre en action. Par le sang de Jésus, j'ai la puissance, le pouvoir, l'autorité légale de chasser les démons, d'apporter la lumière là où il y a les ténèbres, de témoigner de la vérité là où règne le mensonge, la confusion, d'apporter la paix là où règne le désordre, l'agitation. J'ai le pouvoir de débloquer des situations en invoquant le sang, ne serait-ce que dans mon lieu secret, caché dans la prière. Le sang de Jésus est une arme fatale. Mais encore, faut-il l'utiliser ? Amen.